Europe 1, il est 6h.
Les rassemblements à l'extérieur ne sont pas très générateurs de ces clusters qui sont plutôt ou en entreprise, en milieu clos.
Un épidémiologiste pas inquiet de la situation sanitaire malgré les récents rassemblements publics. Selon lui, peu de chances de reconfinement localisé comme au Portugal et surtout en Allemagne. L'inquiétude en Guyane où le virus prolifère. La ministre des Outre-mer sur place, nous appellerons dans le journal la directrice de l'Agence régionale de santé. De la prison ferme et plus de 8 millions d'euros d'amende requis contre le laboratoire Servier au procès du Mediator. Satisfaction des avocats des victimes.
En soi, entendre la justice s'exprimer de cette manière, c'est déjà aussi une victoire. Après, évidemment que nous souhaiterions que le laboratoire soit plus sévèrement sanctionné.
Dans ce journal, les partenaires sociaux, une nouvelle fois à l'Elysée pour tenter de sauver l'emploi en France. Et puis les excuses de Novak Djokovic après que son tournoi de tennis caritatif a tourné au cluster. À 2 mois de la reprise du circuit professionnel, l'ancien champion Cédric Pioline appelle les organisateurs à la prudence.
C'est un dur retour à la réalité et attention à l'excès de confiance. Alors, attention au retour de bâton.
La journée de mobilisation pour l'apprentissage avec mon invité inattendu, je vous le disais, Jean-Claude Borrelier, fondateur de Bricorama, CAP boulanger à 14 ans. 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassen, le réseau professionnel LinkedIn qui lance des stories, des petites vidéos pour séduire les recruteurs. Pépite à venir. Il est 6h01, vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Avant-hier, le Portugal, hier l'Allemagne, ces pays qui reconfinent localement après l'apparition de foyers infectieux. Plus de 600 000 personnes outre-Rhin, deux cantons où les bars, les cinémas, les piscines sont à nouveau fermés au moins jusqu'à mardi prochain.
Et en France, près de 300 clusters des foyers ont été mis au jour depuis le 9 mai. 89 sont toujours en cours d'investigation. Pourrait-on connaître la même situation de reconfinement localisé ? Des éléments de réponse avec Pauline Jacquot.
Tout l'enjeu, c'est de maîtriser les clusters. Si jamais ces foyers d'infection n'étaient plus sous contrôle, alors il faudrait créer, comme en Allemagne, un cordon sanitaire pour circonscrire le virus. Un reconfinement local pour pouvoir remonter et casser les chaînes de contamination. 239 clusters ont été repérés en France depuis le déconfinement. Un tiers sont en cours d'investigation. Tous les autres sont maîtrisés. Peu probable donc pour le moment que la France doive reconfiner une partie de sa population, selon l'épidémiologiste Antoine Flao, qui relativise les images des foules lors de la fête de la musique.
Les rassemblements à l'extérieur ne sont pas très générateurs de ces clusters que l'on enregistre de ci, de là, qui sont plutôt ou en entreprise, en milieu clos, parfois dans des familles, parfois dans des EHPAD ou des services médicaux, mais plutôt dans des milieux fermés, pas très ventilés, que dehors dans la rue.
La clé, rappelle-t-il, c'est que le nombre d'enquêteurs soit suffisant pour tracer les cas contacts et ne pas se laisser déborder par l'épidémie.
57 nouveaux décès en 24 heures, un peu plus de 27 000 au total, pardon, mais toujours la baisse, c'est à noter, du nombre de patients en réanimation.
Reflux en métropole, mais la Guyane inquiète toujours. 4 fois plus de cas en une semaine, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est sur place pour juguler l'avancée du virus avec les acteurs locaux.
Et justement, nous sommes en ligne avec Clara Debord, directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane. Racontez-nous la situation sur place, s'il vous plaît. Un reconfinement de la Guyane est-il possible si la situation ne s'améliore pas? C'est envisageable à l'heure où on se parle?
Le département de Guyane est un très grand département qui a une situation en effet sérieuse et inquiétante, mais qui est déjà pour une grande part en situation de couvre-feu, donc avec des déplacements qui sont extrêmement contraints et une pression qui est mise sur la population qui dure depuis plusieurs mois, hein, puisque depuis début mars, on contraint la circulation du virus. C'est assez fatigant hein, pour tout le monde. C'est aussi le confinement. Il ne faut pas non plus le décider trop tôt ni trop longtemps parce que ça a des effets pervers, y compris sur la santé des populations. Donc nous essayons d'appliquer, de multiplier différentes mesures qui sont un peu plus nuancées que le confinement, sans l'exclure pour autant, puisque nous surveillons vraiment chaque jour les entrées en hospitalisation, en réanimation. Et c'est vrai que là, les nouvelles ne sont pas très bonnes.
Et comment on explique justement en Guyane une telle accélération du virus ?
La Guyane a un voisin, un très grand voisin qui s'appelle le Brésil. Nous avons 700 km de frontière avec le Brésil. Et si nous avons réussi à échapper à la première vague, à la vague de l'hémisphère nord finalement et de l'Europe occidentale avec laquelle nous avons d'immenses échanges pluricotidiens habituellement avec les vols pour Paris. Ces vols, nous les avons réduits très drastiquement et donc nous avons évité la vague de l'Europe occidentale. Mais hélas, la vague sud-américaine nous touche désormais. malgré les immenses efforts de restriction des circulations qui ont été menés avec l'ensemble des services de l'État et des forces armées de Guyane depuis des semaines.
Est-ce que le système hospitalier de la Guyane va tenir ? Annick Girardin promet ce matin des renforts. C'est l'enjeu aussi. Les soignants guyanais sont eux aussi sous tension depuis des semaines.
Nous avons utilisé le temps qui nous a été donné par la préparation pour acquérir l'ensemble de stocks de matériel, de respirateurs notamment nécessaires. Mais c'est vrai que les équipes soignantes, elles, n'ont pas chômé, y compris quand dans l'Hexagone, c'était dur ici aussi. Et c'est vrai qu'on a maintenant une situation d'épuisement des équipes avec en plus une double épidémie puisque nous avons également une épidémie de dengue. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir enfin avoir des renforts qui arrivent. Alors, nous en avons eu très tôt pour les équipes de dépistage dans les quartiers. Maintenant que l'épidémie arrive à l'hôpital, nous avons des renforts qui arrivent pour nos hôpitaux. De nouveaux renforts sont encore arrivés hier. Il y a une centaine de personnes en tout sur le territoire. Et d'autres vont arriver, notamment grâce à l'appui majeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui va nous envoyer du monde.
Clara Debord, merci. Directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guyane, merci d'avoir été ce matin l'invité d'Europe 1 en direct.
Merci à vous. Et prenez soin de vous.
On suivra ce conseil. J'ajoute qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, le bilan dépasse désormais les 100 000 morts selon un comptage de l'agence France-Presse, dont plus de 52 500 au Brésil. Et par ailleurs, Didier Raoult, le défenseur de l'hydroxychloroquine, doit être entendu aujourd'hui par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.
Europe 1, il est 6h07.
Lourde réquisition au procès du Mediator, médicament à coupe-faim soupçonné d'avoir provoqué plus de 500 décès et des milliers de victimes. Plus de 8 heures de réquisitoire de la procureure hier et le parquet de Paris a requis plus de 8 millions d'euros d'amende contre le groupe Servier et 3 ans de prison ferme contre son ancien numéro 2.
Maître Jean-Christophe Coubrist représente 2600 victimes. L'avocat parle d'un réquisitoire équilibré.
Un réquisitoire très long, une journée entière de plus de 9 heures. Je crois que c'est la première fois que j'assiste à cela. Et quant aux condamnations qu'elle a suggérées, qu'elle a proposées au tribunal, pour certaines victimes, ça ne va peut-être pas paraître suffisant, mais ce sont tout de même des sanctions très lourdes. 5 ans d'emprisonnement à l'encontre de M. Seta, ce n'est pas rien, dont 3 ans ferme. C'est un réquisitoire qui me paraît équilibré et j'espère que le tribunal ira dans ce sens. En soi, entendre la justice s'exprimer de cette manière, c'est déjà aussi une victoire. C'est ce qui m'était rapporté à la sortie de l'audience. Elles étaient toutes satisfaites de ce qu'elles avaient entendu et du travail qui a été fait par la justice. Donc cela, je pense que c'est déjà une victoire qu'il faut admettre. Après, évidemment que nous souhaiterions que le laboratoire soit plus sévèrement sanctionné, pas d'interdiction d'exercer, pas de fermeture temporaire et encore moins de fermeture définitive. Pour beaucoup de victimes, le mot Servier devient un mot insupportable. Et savoir que demain, ce laboratoire pourra encore continuer à travailler dans les mêmes conditions, avec le même nom, ça, c'est extrêmement dur pour elle de l'admettre.
Maître Jean-Christophe Coubrist au micro Europe 1 de Chloé Triomphe. D'autres réquisitions aujourd'hui, fin du procès le 6 juillet, jugement l'année prochaine.
Policiers et gendarmes ne relâchent pas leurs efforts dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003. Troisième jour de fouille aujourd'hui dans d'anciennes propriétés de Michel Fourniret.
Les partenaires sociaux à l'Élysée cet après-midi. Comment sauver les emplois, notamment ceux des jeunes, dans ce contexte de crise économique majeure? L'UNEDIC table sur 900 000 emplois détruits en 2020.
Emmanuel Macron est particulièrement attendu sur deux sujets, la réforme de l'assurance chômage et le nouveau dispositif d'activité partielle qui a concerné plus de 8 millions de salariés français au plus fort de la crise. Olivier Samin.
L'assurance chômage d'abord. La réforme décidée il y a un an par le gouvernement durcissait les règles pour les chômeurs. Elle était prévue en deux étapes. La première a déjà eu lieu, au mois de novembre. Elle fixe des conditions plus strictes pour être indemnisé en cas de perte d'emploi. La deuxième devait intervenir le 1er avril et a été repoussée in extremis à septembre à cause de la crise du Covid. C'est cette deuxième étape que les syndicats contestent le plus. Elle durcit fortement le mode de calcul de l'allocation journalière des chômeurs. L'exécutif l'a dit, il veut bien revoir la copie, mais pour les syndicats, qui sont unanimes sur ce point, la seule décision qui vaille, c'est l'annulation de la totalité de la réforme, ce qui laisse présager quelques crispations cet après-midi. Des crispations, il y en aura sans doute moins sur l'autre gros sujet de la réunion, l'activité partielle de longue durée. Le principe, on le connaît, c'est celui d'une aide de l'État aux entreprises qui font face à une baisse durable de leur activité, aide qui pourra être versée pendant 2 ans, en contrepartie d'engagements sur l'emploi. Ces engagements devant être scellés par un accord au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche.
Vous êtes français, mais vous achetez la même voiture ou prenez parfois le même avion qu'un Italien, qu'un Espagnol, qu'un Allemand. Eh bien, peut-être bientôt, en cas de litige, vous pourrez vous associer à un ou plusieurs de ses voisins pour saisir la justice. Un accord vient d'être trouvé à Bruxelles pour l'adoption d'ici quelques mois d'une directive.
C'est ce que l'on appelle une class action aux États-Unis. Les Européens commencent à peine à s'accorder, mais le principe d'une action collective à l'échelle du continent existe déjà. C'est aux Pays-Bas. Elle a d'abord ciblé Volkswagen après le scandale des moteurs diesel, vous vous en souvenez, il y a 5 ans. Et elle s'attaque désormais au groupe Daimler qui produit les véhicules Mercedes. Europe 1 vous le révélait dès hier, Aurélien Fleureau.
Cette nouvelle forme d'action collective existe depuis le 1er janvier dernier dans la loi aux Pays-Bas. C'est donc devant la cour d'Amsterdam que la fondation Diesel Emission Justice vient d'assigner le constructeur allemand. Et cela va permettre à des particuliers de toute l'Europe de rejoindre l'action s'ils s'estiment lésés et à terme d'être indemnisés, comme l'explique Maria-José Hazard-Beau, maître de conférence en droit à l'université Paris-Saclay et membre de la fondation.
On sait qu'aujourd'hui il y a plus de 1 400 000 véhicules concernés en Europe. La fondation, elle prétend représenter tous les consommateurs européens concernés par le Dieselgate qui ont soit acquis, soit loué, soit utilisé des véhicules Mercedes pendant la période concernée.
Des réclamations qui portent sur la période 2009-2019. La première procédure de ce type contre Volkswagen a permis de rassembler plus de 12 000 plaignants en Europe et a déjà eu quelques effets. À la fin du mois de mai dernier en Allemagne, la justice a condamné Volkswagen à indemniser un plaignant à hauteur de 26 000 euros. Pour une voiture, acheter 30 000 euros.
Il se dit profondément désolé et reconnaît avoir eu tort d'organiser son tournoi caritatif de tennis dans les Balkans. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, est sous le feu des critiques. Du public dans les tribunes, sans distanciation, des joueurs qui s'étreignent. Et 4 d'entre eux désormais positifs au coronavirus, dont Novak Djokovic lui-même.
Et c'est le coup de froid sur l'ensemble du tennis professionnel. Les tournois doivent reprendre dans à peine 2 mois. Corinne Boulou, les organisateurs se posent désormais beaucoup de questions.
C'est vrai que l'image d'un Novak Djokovic souhaitant donner l'exemple d'une reprise avant l'heure pour donner un coup de pouce aux joueurs en difficulté dans les Balkans a fait flop. Sa tournée de match-exhibition a été brutalement interrompue en raison de contaminations multiples. Inconscience pour certains, négligence pour d'autres, surtout un manque évident de précautions sanitaires, en partie lié aux directives locales très permissives, trop quand il s'agit du Covid-19. À l'heure où les tournois s'organisent pour accueillir les joueurs à partir du mois d'août, il convient de rester prudent, comme le rappelle notre consultant Cédric Pioline.
Oui, c'est un dur retour à la réalité. Et attention à l'excès de confiance. Alors, attention au retour de bâton. C'est un petit peu ce qui s'est passé là, malheureusement, lors de l'événement de Djokovic. Mais bon, je crois que c'est un bon signal d'alarme pour les semaines et les mois à venir. Ça va permettre aux organisateurs d'affiner encore plus les précautions sanitaires qu'il faut prendre. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué d'être dans le zéro risque.
Et en France, à la demande des autorités de santé, sachez que chaque tournoi devra nommer un responsable Covid en plus d'un protocole sanitaire strict à respecter.
Corinne Boulou.
Merci beaucoup. Alors, je vous le disais précédemment, nous allons parler de l'organisation des tournois de tennis. Est-ce que c'est un avertissement, au moins, que ce tournoi de Novak Djokovic, on a entendu inconscience, négligence, manque de précaution, est-ce qu'au moins c'est un avertissement? Nous serons avec Julien Bouter, ancien joueur de tennis et directeur du tournoi de Metz à 6h40 sur Europe 1. Il est 6h13.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, la suite, Mathieu Belluard avec votre invité inattendu.
Jean-Claude Bourrelier, l'ancien PDG de Bricorama, fondateur de Bricorama, parti de l'apprentissage, un CAP boulangerie en poche à 14 ans. Son histoire, son témoignage, à tout de suite.
Europe 1, il est 6h15 et c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Déconfine ton avenir, choisis l'apprentissage. C'est le slogan de cette journée de mobilisation pour les jeunes face à la crise qui se profile. De vives inquiétudes pour la jeunesse, oui. Certains parlent même déjà de génération sacrifiée. Un défenseur de l'apprentissage ce matin, du CAP de boulangerie à la direction d'un grand groupe, témoignage aujourd'hui.
Votre invité inattendu, Mathieu Belliard, c'est Jean-Claude Bourrelier, fondateur et ancien patron de Bricorama.
Bonjour Jean-Claude Bourrelier.
Oui, bonjour.
L'enseigne, le groupe Bricorama, ça c'est votre histoire, mais quand on parle d'apprentissage, de transmission, vous avez commencé à travailler à l'âge de 14 ans, pas forcément dans le bricolage au début.
Et non, à l'époque ça n'existait pas. J'ai commencé comme apprenti boulanger et comme j'avais des problèmes de santé avec la farine, j'ai traversé la rue et j'ai fait mon apprentissage de charcutier. Période très enrichissante, mais très très dure. Quoi.
Vous en gardez quel souvenir? Vous en gardez un bon souvenir?
Non, un souvenir très très difficile. Moi, j'étais un très bon élève à l'école et j'aurais aimé continuer les études, mais comme j'étais dans un milieu ouvrier, mes frères partaient en apprentissage, mon frère partait en apprentissage, mes sœurs et tout, donc tout le monde partait en apprentissage. Et dans la province où j'étais, la majorité des enfants partaient en apprentissage. Il n'y avait que ceux qui étaient d'une classe sociale favorisée qui poursuivaient des études, quoi. C'est un monde qui a changé, tout a changé. Là, le monde des années 60, qu'on dit les 30 glorieuses, ben à l'époque, on l'a pas vécu glorieusement. On l'a vécu au travail, pour le travail.
Le regard a changé ?
Ah oui, le regard, par rapport au travail et par rapport à l'apprentissage, oui. Il semblerait que depuis quelque temps, on commence à faire des efforts pour que ceux qui suivent l'apprentissage aient un peu plus de droits. Quand on voit aux étudiants, effectivement, ils ont raison, ils demandent beaucoup, beaucoup de choses, mais les apprentis sont des gens silencieux. Et conclusion, quand on voit des aides pour se loger, pour se nourrir, tout ça, quand on suit des études, moi, je trouve un petit peu difficile et un peu injuste que ceux qui font leur apprentissage, on ne consacre pas autant d'argent pour l'apprentissage.
Et aujourd'hui, en 2020, hein, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a pris la mesure de l'importance de l'apprentissage ?
Oui, ben, je pense qu'on en prend conscience parce que nécessité fait loi et espérons que les lois vont suivre la nécessité. Il va falloir effectivement qu'on reconnaisse l'apprentissage comme une filière noble. Alors moi, je trouve que ça, on le reconnaîtra quand on reconnaîtra effectivement, quand on demandera qu'il y a autant d'apprentis dans les conseils d'administration que de femmes. Pourquoi ceux qui font des carrières longues dans des métiers n'ont pas de reconnaissance, la reconnaissance qu'ils méritent ? Je ne vois pas de reconnaissance de ceux qui, par leur métier, par leur implication dans le travail, sont vraiment valorisés. Heureusement, il y a la télévision maintenant qui se met avec toutes les émissions culinaires et tout, qui font un peu des passerelles pour remettre un petit peu en lumière ceux qui savent travailler de leurs mains, des artisans, des anciens apprentis, croyez-moi, c'est des gens qui ont beaucoup de valeur. Et je dis, lorsque on imposera au gouvernement, on ne va peut-être pas aller si loin quand même, il ne faut pas que j'exagère, que je ne vais pas demander la parité apprentis et anciens énarques au gouvernement. Ça serait un peu aller loin. Je ne vais pas demander la parité comme on le fait pour les femmes.
Mais vous l'appelez de vos voeux ?
Oui, je pense que si on veut revaloriser l'apprentissage, il faut que l'on donne aux anciens apprentis les mêmes chances d'évolution de carrière qu'à ceux qui ont fait des études. Qu'on fait des études longues, je ne vois pas pourquoi on fait autant de discrimination.
Déconfine ton avenir, choisis l'apprentissage. C'est le slogan de cette journée de mobilisation pour les jeunes et l'apprentissage. Que dites-vous, Jean-Claude Bourrelier, ce matin à un jeune qui nous écoute et qui hésite sur son avenir ?
Ben, je lui dis qu'il choisisse la voie dans laquelle il a l'impression qu'il va s'épanouir. Faisons en sorte que, parce qu'il a choisi le métier dans lequel il pense faire carrière, qu'on lui donne toutes les possibilités pour continuer et non pas se trouver face à de multiples difficultés. Facilitons la vie des apprentis comme on facilite la vie des étudiants et tout le monde s'en portera mieux.
Ça a sans doute été la période de ma vie la plus difficile, avez-vous dit. Un peu plus tôt, vous disiez même « j'aurais voulu continuer mes études, j'étais un bon élève ». Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on n'est pas en train, pardonnez-moi l'expression, hein, mais pas en train de les envoyer au casse-pipe, ces jeunes ?
Comme vous dites, les envoyer au casse-pipe, moi je dis pas forcément. Pas forcément, on peut aussi s'épanouir. Moi j'ai eu énormément de chance. J'ai fait mon apprentissage, ça m'a donné la notion du travail bien fait, de l'implication dans le travail et tout. C'est effectivement une méthode qui vous forme pour la vie. Mais je voudrais que tous les apprentis soient aussi heureux que moi maintenant. Je souhaite, mais malheureusement, sur les bancs de la communale, j'ai vu, bon, ça ne s'est pas passé pour tout le monde comme ça. Il y a eu, en ce qui concerne la retraite, ceux qui ont commencé jeunes, eh bien, forcément, au moment de la retraite, ils sont défavorisés. Et je souhaiterais naturellement que les choses changent. Et j'espère que les choses vont changer.
Jean-Claude Bourrelier, vous avez un discours de vérité ce matin. Vous encouragez, oui, à l'apprentissage, mais vous ne racontez pas d'histoire non plus. C'est pas tout rose.
Non, un bon apprentissage vaut mieux que de mauvaises études. Donc l'apprentissage peut vous apporter autant que ça m'a apporté à moi, mais naturellement, comme partout, il faut travailler et surtout travailler passionnément. Mais faisons en sorte que pour les apprentis, ça ne soit pas une course d'obstacles. Donnons-leur à eux, aux apprentis, les mêmes facilités que nous donnons aux étudiants. Lorsqu'on augmente des primes ou des allocations au logement, eh bien, qu'on fasse de même aux apprentis. Et c'est vrai que les étudiants ont des caisses de résonance qui sont beaucoup plus fortes. Et les revendications des étudiants sont beaucoup mieux prises en compte que les besoins et les demandes des apprentis. Ben demain, faisons en sorte que ça soit la même chose.
Merci Jean-Claude Bourrelier.
Eh ben, bonne journée à tous et bon courage et bon métier.
Merci Jean-Claude Bourrelier encore une fois. Et surtout, je rappelle le fond, cette journée de mobilisation pour les jeunes et l'apprentissage. Déconfine ton avenir, choisis l'apprentissage. Ça, c'est le slogan pour les détails, la préoccupation pour les jeunes dans l'emploi. On va en parler dans le journal de 7h tout à l'heure. Merci Jean-Claude Bourrelier encore une fois. Il est 6h23.
Europe 1. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux à suivre avec Paul Lassène. Et il va y avoir du nouveau sur le réseau social professionnel LinkedIn. À tout de suite. Europe 1, il est 6h26, vous écoutez Mathieu Béliard.
Mais tous les jours à 6h26, nous retrouvons Paul Lassène sur Europe 1. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Et tiens, ce réseau social que vous connaissez, hein, réseau professionnel LinkedIn, qui a annoncé, Paul, mettre en place des stories.
Oui, comme sur le modèle d'Instagram ou Facebook, vous pouvez maintenant publier des photos ou des vidéos éphémères que vos contacts peuvent regarder. Et c'est une bonne nouvelle pour certains sur les réseaux sociaux, assez enthousiastes comme cet internaute. Se vendre sur une vidéo, c'est quand même plus simple que par écrit. Pour un autre, pouvoir montrer qu'on présente bien, c'est nécessaire pour nous, les utilisateurs. C'est une innovation optimale. Ça crée même beaucoup d'espoir pour trouver du travail. Comme pour Just Me, on est parti pour attirer des entrepreneurs sur LinkedIn. Ça y est, ma chance est arrivée.
Mais pour ceux qui, par contre, ne l'utilisent pas, le ton est plus à la moquerie.
Oui, notamment sur la réactivité tardive du réseau social. Chouette, des années après les autres, LinkedIn sort enfin de l'antiquité, se moque un internaute. Manon prévient, elle, ceux qui vont découvrir un nouveau monde. Donc on est d'accord que personne n'est prêt pour les stories de manager commercial agile de la Startup Nation. Car oui, il faut savoir que sur Twitter, LinkedIn, c'est le vilain petit canard dont on aime se moquer. À chaque nouvelle mise à jour, LinkedIn arrive à s'asseoir sur le trône du pire réseau social, écrit Capitaine Barberousse. Karim, lui, est plus direct, mais avec les utilisateurs. Maintenant, en plus de les lire, on va pouvoir regarder des gens qui n'ont absolument rien à dire. Certains internautes préfèrent eux s'amuser en imaginant le genre de portrait vidéo qui pourrait y être publié.
Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout.
Le fameux sketch des inconnus, bien sûr. Les internautes ne sont vraiment pas tendres hein, avec cette innovation.
Non, et pour ne rien vous cacher, avant même les premières vidéos publiées par les utilisateurs de LinkedIn, certains les ont déjà parodiées.
Salut à toi, jeune recruteur. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Savais-tu qu'une erreur de recrutement d'un commercial pouvait représenter jusqu'à 200 000 euros de coût et que 70% des recruteurs affirment déjà avoir commis une erreur de recrutement? Alors est-ce que tu vas en faire partie? Faut que tu te poses les bonnes questions.
Alors cette vidéo de Julien est même devenue virale sur Twitter, générant des milliers de réactions. Cette parodie, c'est plus vrai que nature, je suis morte de rire, écrit cet internaute. La mise en place des stories sur LinkedIn ouvre un boulevard à ce genre de vidéos, écrit Mathieu Zagrodzki, qu'on connaissait plus pour ses analyses de la police. Sur Twitter, l'idée qui revient beaucoup cette fois, c'est qu'on va rajouter de l'ennuyeux à l'ennuyeux, comme cet internaute. Les stories LinkedIn du genre 10 trucs pour réussir un entretien d'embauche, ça va être comique, déjà qu'on se moquait des gros pavés écrits. Enfin, pour Anaïs, c'est du temps perdu pour au final oublier l'essentiel. Au lieu de rajouter des stories, trouvez-moi plutôt une alternance, non ?
Oui, et on retrouve la thématique justement de la jeunesse et de l'emploi finalement. Avec cette innovation du réseau social LinkedIn, je vous rappelle aussi que la patronne de LinkedIn, la patronne France de LinkedIn, était l'invitée de l'interview écho d'Emmanuel Duteil hier soir, à retrouver en podcast bien sûr. Il est 6h29, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et une météo, il va faire plus chaud qu'hier et moins chaud que demain. Voilà, nous sommes en pleine période de...
de fortes chaleurs, de poussées de chaleur. Ce matin, il fait entre 14 et 22 degrés, 22 à Nice et 14 à Caen. Et curieusement, 22 à Nice ce matin, c'est là qu'il fait le plus chaud, mais c'est là qu'il fera le plus frais cet après-midi avec 28, parce que bien, il y aura du vent, nous aurons du vent marin. Alors 28 à Nice, 28 à Belfort aujourd'hui, 29 à Caen, 30 à Marseille et Lille, 31 à Besançon, 32 à Nevers, Clermont-Ferrand, 34 en Ile-de-France, en région toulousaine, à Bordeaux, dans la région lyonnaise, 35, 36 dans le Lot, dans les Landes, dans le Gers, vous voyez que ce sont des températures très élevées. C'est la pointe, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Demain jeudi, où beaucoup de villes se situeront entre 35 et 36, notamment Paris et Lyon. Et nous aurons jeudi, alors après-demain, demain, des orages qui vont arriver sur le littoral atlantique et sur le Midi-Pyrénées. Essentiellement le Midi-Pyrénées, le massif pyrénéen plus exactement. Et ces orages vont amorcer la fin de la période de chaleur. Et nous verrons cela tout à l'heure. Vendredi, ce sera les températures en baisse de 3 à 4 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1, François Geffrier est là. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est 6h30.
Je serais attaché à lui demander comment il a réussi à tester beaucoup plus massivement, précocement, systématiquement.
Ils ont plein de questions à lui poser. Les députés de la commission d'enquête reçoivent Didier Raoult en fin d'après-midi. Les traitements, les tests, le médecin star et controversé campe sur ses positions. Les derniers jours de la campagne des municipales, risque d'abstention record pour le second tour. Mais les procurations sont facilitées, précision à suivre. Et puis des chiffres encourageants dans les cinémas français. Les spectateurs semblent revenir peu à peu.
Question de droit et réponse de l'avocat d'Europe 1. Les étudiants peuvent-ils réclamer le remboursement de leur cursus avorté à cause du virus? La réponse de Roland Pérez après ce journal. 6h40, après le fiasco du tournoi de tennis organisé par Novak Djokovic, comment relancer le tennis sans risque? L'ancien tennisman Julien Bouter, directeur du tournoi de Metz, dans moins de 10 minutes. Et puis nous vous emmenons en Israël, en Inde et en Russie. C'est la revue de presse internationale avant 7h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce matin encore, il se compare à un virtuose de sa discipline. Est-ce que vous vous demandez comment Mozart a fait, déclare Didier Raoult dans le journal Le Parisien. Le dexaméthasone, vu comme une percée scientifique par l'OMS, c'est une couillonnade, répond le professeur marseillais. Quant aux études qui disqualifient l'hydroxychloroquine, ce sont des ignares, dit-il.
Il aura l'occasion de préciser sa pensée face à la représentation nationale. L'infectiologue auditionné à 17h par la commission d'enquête de l'Assemblée, logique selon les députés que Claudia Bertram a interrogé.
Il aurait été complètement anormal de ne pas auditionner le professeur Raoult qui a fait partie du paysage de cette crise sanitaire.
Pour la députée LREM Brigitte Bourguignon, il faut que la commission qu'elle préside entende toutes les visions sur la gestion de la crise, même les plus polémiques. Le rôle du professeur marseillais pendant la crise justifie son audition, estime le socialiste et vice-président Boris Vallaud.
Il y a eu des controverses sur l'efficacité ou pas de la chloroquine. Et donc il est important qu'on puisse comprendre les choses. Il ne s'agit pas de décerner de brevets aux uns et aux autres, de disqualifier ou qualifier tel ou tel.
Le professeur Raoult sera aussi interrogé sur son retrait du conseil scientifique ou encore sur les tests. Certains affirment que le bilan de l'IHU de Marseille est meilleur que dans le reste du pays. Et le rapporteur LR, Éric Ciotti, veut comprendre pourquoi.
Le manque de tests a été un des défauts majeurs de notre pays. Je serai attaché à lui demander comment il a réussi à tester beaucoup plus massivement, précocement, systématiquement.
La commission veut entendre un maximum d'acteurs scientifiques et politique. Demain, c'est le professeur Karine Lacombe, très critique envers Didier Raoult, qui sera auditionné.
Des renforts pour la Guyane, c'est ce que promet ce matin la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, présente sur place. C'est vrai que les nouvelles ne sont pas très bonnes, reconnaissait tout à l'heure à 6h sur Europe 1 la directrice de l'Agence régionale de santé de Guyane, évoquant la fatigue des personnels soignants.
Nouveau rendez-vous à l'Elysée pour les partenaires sociaux. On attend les premiers arbitrages, notamment sur le dispositif baptisé ARMES, c'est-à-dire activité réduite pour le maintien de l'emploi. Une nouvelle forme de chômage partiel.
Second tour des municipales, J-4. Nous sommes à Bordeaux ce matin, où la droite tient la mairie depuis plus de 70 ans. Le maire sortant s'est allié à La République En Marche. Restent les écologistes et la liste Bordeaux en lutte, menée par l'ancien candidat à la présidentielle, Philippe Poutou.
Ben non, nous on ne s'efface pas. Une fois qu'on est au second tour, et ben nous ce qu'on dit, ben c'est qu'on est là, on reste là. Et oui, on veut des élus, on veut des militants au conseil municipal de Bordeaux, on veut des militants anticapitalistes, des militants qui dénoncent ce système-là, des militants qui disent qu'il y a un Bordeaux populaire et qu'il va falloir que ça change, que Bordeaux n'est pas que bourgeois. Et après avec des programmes d'urgence, ouais, pour répondre aux besoins sociaux de la population. Mais justement, c'est tout ce que ne fait plus la gauche depuis très longtemps. Mais on sait qu'on bousculera, par les habitudes, par les mœurs, par le programme qu'on a, qu'on défend, et on se battra pour. Nous, on pense que ce qui qui va être déterminant. C'est pas le super élu qui a un super programme et qui va convaincre dans des déclarations au sein du Parlement bordelais, mais ça va être le lien qu'on va faire avec le milieu associatif, avec les syndicalistes, avec les habitants dans les quartiers, un lien qui va être fondamental, parce que nous on pense que pour changer vraiment les choses, il faut que la population se mobilise. Donc nous on essaiera de raconter ce qui se passe au conseil municipal, on fera des assemblées générales, un genre de comité de quartier en parallèle de ce qui existe officiellement, et en essayant de montrer que c'est le rapport de force qu'il va falloir pousser pour arriver à imposer des réponses sociales à tous les problèmes qu'on connaît au quotidien.
Philippe Poutou au micro Europe 1 de Stéphane Place.
Dans la capitale, Anne Hidalgo le répète ce matin dans le Figaro, Paris me comble, je n'ai absolument aucune frustration. Je ne serai pas candidate à la présidentielle.
Et sur les municipales, si vous ne pouvez pas voter dimanche, sachez que l'Assemblée a adopté une loi élargissant les conditions d'utilisation des procurations, Simon Rubin.
Première nouveauté, si vous avez fait une procuration pour le deuxième tour prévu initialement en mars, cette procuration est toujours valable pour le 28 juin, pas besoin de faire de nouvelles démarches. Deuxième changement, un mandataire pourra désormais porter deux procurations contre une seule auparavant. Troisièmement, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour faire les démarches à cause du Covid-19, vous pouvez demander qu'un agent de police ou de gendarmerie se rende à votre domicile pour établir la procuration. Enfin, vous n'avez plus besoin d'une attestation sur l'honneur pour justifier la raison de votre absence. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de date limite pour effectuer une procuration, même s'il vaut mieux éviter de faire les démarches la veille du scrutin, le temps que les formulaires parviennent en mairie.
C'était lundi, la réouverture des cinémas après 3 mois de fermeture.
Et il y a eu des allers-retours sur les conditions sanitaires, des questions de jauge, de places laissées libres. On pouvait donc craindre que le public soit réticent à l'idée de s'enfermer dans une salle obscure. C'est finalement relativement rassurant, Mathieu Charrier.
Moins 30% de fréquentation par rapport à la même date il y a un an. C'est le premier bilan des cinémas CGR, 73 multiplex répartis sur toute la France, qui ont vendu sur la journée de lundi près de 15 000 billets. Les spectateurs sont donc en train de revenir dans les salles, affirme David Scantum-Burlo, directeur marketing du réseau CGR.
Dans un contexte de reprise des écoles, de beau temps, de post-Covid, ce sont des chiffres plutôt encourageants. On est très conscient que ça va prendre du temps. Il va falloir aussi agrémenter notre line-up de films. Donc c'est vrai que comparativement à l'année dernière, on va évidemment souffrir économiquement. Mais il y a quand même des indicateurs qui prouvent que les spectateurs ont envie de revenir en salle, dans la joie et dans la bonne humeur.
70% de fréquentation par rapport à l'année dernière chez CGR, donc 60% dans un autre grand réseau de salles. La reprise semble amorcée et certains films ont d'ailleurs bien redémarré. La Bonne Épouse, par exemple, portée par Juliette Binoche, a enregistré 20 000 entrées sur la seule journée de lundi. Le monde du cinéma attend maintenant avec impatience le week-end prochain pour scruter les entrées notamment et voir si les jeunes et les familles reviennent en nombre dans les salles.
Mathieu Charrier pour Europe 1.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal à 6h37 sur Europe 1.
Les réponses à vos questions de droit avec à présent notre expert juridique, l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Aux États-Unis, Roland, des class actions ont vu le jour pour obtenir le remboursement en partie des frais de scolarité qui s'élèvent là-bas à plusieurs milliers de dollars, il faut le rappeler. Et ce, en raison de l'interruption, comme un peu partout dans le monde, des cours en salle, en amphithéâtre. Et la question est de savoir, Roland, si c'est possible légalement en France.
Alors, pour la petite histoire, c'est notamment un étudiant en droit d'Harvard qui a traîné en justice son campus pour avoir subi ce qu'il appelle une éducation isolée et virtuelle sans continuité pédagogique et dont les frais de scolarité annuels de près de 70 000 dollars auraient enrichi l'université sans contrepartie. Preuve que l'étudiant en droit, Mathieu, a tout de même bien retenu ses leçons.
Oui, c'est presque son examen, en fait, qu'il a réussi.
Exactement. Alors, pour en revenir au droit français sur les chances de succès d'une telle action, la réponse est plutôt positive, même si les écoles de commerce et d'ingénieurs et autres établissements privés s'arc-boutent sur le fait que la valeur des enseignements dispensés et des diplômes obtenus ne saurait être remis en cause et dès lors, pour elles, un quelconque remboursement est inenvisageable. Et pourtant, selon moi, la loi des contrats doit s'appliquer et la force majeure a de fortes chances de ne pas être retenue, car les établissements en question avaient la possibilité de privilégier les cours en ligne, les visioconférences, de donner très régulièrement des consignes et instructions par mail et de procéder à des contrôles de connaissances pour éviter justement la perte d'une année d'études. Et puis surtout, les sommes payées au titre des frais de scolarité comprennent toujours, d'après les contrats d'inscription, l'accès au matériel de l'école, la bibliothèque, les laboratoires, les salles d'études, la participation à tous les événements extrascolaires de sport et de culture dont ont été privés, évidemment, depuis mars, les étudiants. Cela a forcément induit des coûts de fonctionnement moindres pour les établissements en cause, ce qui pourrait, à mon sens, justifier les demandes de remboursement.
Et si les écoles en question refusent tout remboursement, un mot sur les recours peut-être ?
Alors, avant d'envisager le procès, Mathieu, il faudra probablement que les étudiants se regroupent pour envisager ensemble une démarche amiable. Et puis surtout, quand il s'agit de diplômes d'État proposés par les écoles et autres établissements privés supérieurs, le médiateur de l'éducation nationale peut être saisi pour départager les parties et faire des recommandations.
Merci Roland Pérez. Tous les matins, votre question de droit et la réponse de Roland Pérez, c'est juste après le journal de 6h30 sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard sur Europe 1, la matinale, la suite.
Les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 le matin à 8h15. La crainte d'une deuxième vague, celle d'un reconfinement. L'évolution de l'épidémie en France et dans le monde. Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il sera au micro de Sonia Mabrouk, 8h15. 7h40, nous parlerons d'écologie. Après la remise de 150 mesures par la Convention citoyenne sur le climat à l'exécutif, à 4 jours du second tour des municipales, Pascal Canfin, député européen Renaissance, la bannière sous laquelle se trouve la République en marche, président de la commission environnement au Parlement européen. Il sera mon invité à 7h40. Tout de suite, nous revenons sur le fiasco de l'Adria Tour, le tournoi de tennis organisé dans les Balkans, organisé prématurément par Novak Djokovic. Énorme raté et la pression sur les organisateurs des tournois à venir. Julien Bouter, directeur du tournoi de Metz, est mon invité dans une minute. À tout de suite.
Il est 6h42, les acteurs de l'actualité sont en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, Julien Bouter, directeur du tournoi ATP de Metz.
Et ancien joueur de tennis professionnel bien sûr. Bonjour Julien Bouter.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Le tennisman Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui organise donc un tournoi dans les Balkans, qui voit 3 joueurs contaminés par le Covid, lui-même qui finit par être testé positif, on l'a appris hier. Très simplement, comment est-ce que vous qualifiez ce qui s'est passé dans ce tournoi organisé par Djokovic ?
Comment je le qualifie ? Après, c'est très complexe de donner des leçons sur une attitude comme ça. Très souvent, on critique ceux qui font quand il y a un problème ou autre. Après, si lui, dans son pays, était en mesure d'organiser un événement comme celui-là en respectant les consignes sanitaires ou autres, après, est-ce que réellement, à l'intérieur de son tournoi, il a respecté les consignes d'un tournoi professionnel, même si, je le rappelle, c'était simplement une exhibition, donc quelque chose qui était complètement en marge du circuit ATP, il était en droit de l'organiser.
Mais pourquoi, Julien Bouter, si c'était en marge du circuit, c'est parce que le circuit est à l'arrêt. Aujourd'hui, dans plusieurs disciplines d'ailleurs, pas que dans le tennis, on a arrêté les compétitions. Il n'a pas voulu aller plus vite que la musique. J'ai entendu les mots inconscience, négligence, double faute, lit-on dans l'équipe.
Il y a eu certainement des négligences, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'heure actuelle, on raisonne avec nos éléments en tant que Français. Moi, mon gamin, il joue au tennis, il a 10 ans, je suis obligé de lui donner des balles avec écrit son nom ou ses initiales pour qu'il puisse servir et ramasser les balles. Donc pour nous, ça paraît complètement inconcevable d'organiser un événement de cette sorte. Mais est-ce que les données et est-ce que les informations chez lui sont les mêmes ou est-ce qu'il a intégré la même gravité que nous? J'en suis pas sûr puisqu'on voit les choses évoluent dans le monde à des vitesses complètement différentes. Là on voit l'Allemagne se confine alors que nous on se déconfine et on se rend compte que même les experts sont pas capables de donner des informations très précises et à long terme sur cette pandémie.
On navigue à vue. On le sent bien.
C'est vraiment dommage de, entre guillemets, une fois de plus, j'ai pas envie de prendre la défense de Djoko parce que Djoko ou un autre, peu importe, mais c'est très compliqué de critiquer les gens qui font. Prenez l'exemple quand il y a eu les attentats. Nous, on a durci notre sécurité et ainsi de suite. Alors, les tournois n'ont pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de gros drames, mais imaginez qu'il y a un drame à ce moment-là, on aurait dit, le tennis, à un moment, ça peut être une cible privilégiée, pourquoi vous l'avez organisé et ainsi de suite. Il a certainement pas eu de chance, mais plutôt que de dire est-ce qu'il a eu raison ou pas raison ou autre, c'est de se mettre, nous, les gens de l'ATP, les organisateurs du tournoi, autour de la table en disant est-ce que toutes les choses, à un moment, sont mises en place pour une bonne reprise et surtout harmoniser
justement,
tout
justement,
ça.
Justement, qu'est-ce qui s'est dit
planétaire
entre professionnels, Julien Bouter, sincèrement, dans les échanges que vous pouvez avoir, les petits messages que vous pouvez vous envoyer, sans citer de nom, qu'est-ce qui se dit sur ce qui vient de se passer?
Ce qui se dit, c'est qu'il va falloir une fois de plus être très très vigilant. Et
c'est un avertissement
là. Ah mais c'est plus qu'un avertissement, je compare un peu ça à un crash test, vous savez quand à un moment on estime que toutes les choses ont été anticipées pour justement éviter les catastrophes et qu'on se rend compte que le concept n'est pas au point, ben il faut se remettre autour de la table, réfléchir et remettre en place surtout des dispositions communes et surtout alignées aussi avec les différents pays ou les différents territoires ou les différentes instances, une harmonie et quelque chose de très très clair. Après, certainement qu'il a été un peu vite. Certainement que, mais d'un autre côté, s'il n'avait rien eu, et si ça s'était passé de façon admirable, on aurait dit, génial, enfin un peu du tennis, enfin de l'animation, et puis ça aurait été un très bon révélateur pour la suite.
Oui,
là,
c'est un crash
justement, test. Ça nous met en garde.
Vous organisez le tournoi de Metz, alors qu'il est prévu.
Le Moselle Open, oui.
Du 20 au 27 septembre. Ça, c'est la théorie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il se tiendra du 20 au 27 septembre, Julien Boutère.
Ah ben là, à l'heure actuelle, pour une raison très simple, il ne se tiendra pas du 20 au 27 septembre parce qu'il y a Roland Garros qui est positionné à ce moment-là. Donc c'est la seule certitude que nous, par rapport au Moselle Open, on est. Maintenant, on va certainement statuer.
Il faut bien l'intégrer, je pense à nos auditeurs, fans de sport en général, de tennis en particulier. Il faut bien l'intégrer. Au-delà des précautions sanitaires et du feu vert pour organiser ou non un tournoi, il va y avoir un énorme embouteillage de calendrier dans toutes les disciplines.
Oui, un embouteillage de calendrier, un embouteillage de salles, parce qu'il faut savoir que le tennis se joue effectivement dans des clubs de tennis ou dans des sites spécialement conçus pour accueillir des événements tennistiques, mais il se joue aussi dans des arénas, dans des salles de concert, et ainsi de suite. Et quand on sait que la reprise est prévue pour septembre, à la fois des concerts, des manifestations, des différentes expositions, événements ou autres, oui, ça, on va être engorgé de nombreux côtés. Après, nous, notre événement, à l'heure actuelle, on sait qu'on va pas le tenir au moment de Roland-Garros. Maintenant, il y a des places libres dans le calendrier par la suite. On est en train de voir avec les instances compétentes, l'ATP et autres, et les disponibilités de salles aussi, pour voir si on est capable d'organiser l'événement. Mais une fois de plus, là, à l'heure actuelle, la vérité aujourd'hui ne sera certainement pas la même dans 15 jours.
Bien sûr, d'un mot, Julien Boutère, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que vous voyez d'évident pour les professionnels, les joueurs bien sûr, pour le public aussi? Comment est-ce qu'on peut rassurer déjà au mois de juin?
J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Après les joueurs, est-ce que c'est à un moment les soumettre systématiquement à des tests avant de faire un tournoi? Maintenant, après une exhib et un tournoi normal entre guillemets. Une exhib, les joueurs peuvent exagérer, sauter dans les bras, faire des accolades, ainsi de suite, ce qui est moins le cas dans un tournoi officiel professionnel. Mais par contre, voilà, il y a des salles de muscu, il y a des appareils, alors on peut les nettoyer, on peut faire plein de choses. Mais une fois de plus, le risque zéro n'existe pas.
Et on va rester vigilant. Un crash test, je reprends votre expression sur ce qui s'est passé dans les Balkans, ce tournoi organisé par Novak Djokovic, lui-même positif, il l'a révélé hier. Julien Boutère, merci beaucoup. On prendra des nouvelles, évidemment, du tennis français avec vous, certainement, ancien joueur de tennis, directeur du Moselle Open, la 18e édition du Moselle Open qui doit se tenir à la fin de l'été, à l'automne, on verra quand. Julien Boutère, merci beaucoup. Il est 6h49.
Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une à l'étranger? Dans un instant, la revue de presse internationale sur Europe 1.
L'Inde, la Russie et Israël au programme. À tout de suite.
Sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard à 6h52, la revue de presse internationale.
Et nous retrouvons notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger, c'est une fenêtre que nous ouvrons sur le monde le matin sur Europe 1. Nous démarrons en Inde avec Côme Bastin. Bonjour Côme.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Inde ?
Ici, toutes les chaînes ont retransmis la façon unique dont s'est déroulé le Rath Yatra. Chaque année, ce festival dédié au dieu Vishnu rassemble plus d'un million de pèlerins dans la ville de Puri. Mais hier, on n'y a compté que 700 participants, à savoir les prêtres. Au vu de la pandémie qui explose, la Cour suprême a d'abord interdit la procession, rapporte le Deccan Chronicle. Motif, le dieu lui-même s'opposerait à exposer les fidèles à un tel danger. Le problème, explique Outlook India, c'est que si Vishnu n'est pas invoqué, il faut attendre 12 ans pour voir son retour. Devant la pression, le festival quasi-millénaire a donc finalement eu lieu hier. Seuls manquaient à l'appel les fidèles. Sur leur char géant, les prêtres, préalablement testés au Covid-19, ont mené les cérémonies sans la foule. Des images marquantes dans une Inde habituée aux rassemblements religieux géants.
Côme Bastin en Inde pour Europe 1. Elena Voloshin est à Moscou. Bonjour Elena.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui fait la une en Russie ?
À la une en Russie, une nouvelle adresse télévisée à la nation par Vladimir Poutine. Le président russe a annoncé des mesures très sociales comme une hausse d'impôts pour les riches, des donations aux familles, aux travailleurs sociaux et des crédits à la consommation. Et à peine quelques mots à la fin de son discours sur le vote de la réforme constitutionnelle qui démarre après-demain jusqu'au 1er juillet pour permettre à Poutine d'annuler ses mandats et se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036, Poutine a affirmé que cette réforme n'entrera en vigueur que si elle sera soutenue par les Russes. Pour la web télévision d'opposition Dosht, le président achète tout simplement les voix de ses citoyens et en plus des promesses de financement direct, il y a en effet cette action lancée par la mairie et la chambre du commerce de Moscou, des chèques cadeaux, des bons de réduction dans les grandes enseignes de la capitale russe pour ceux qui iront voter.
Elena Voloshine à Moscou. Clotilde Mravko est en Israël. Bonjour Clotilde.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'on trouve dans la presse chez vous ?
C'est la photo d'un bébé intubé qui s'affiche dans les journaux israéliens et palestiniens ce matin. Omar Yari, 8 mois, est mort jeudi dernier, faute d'avoir pu obtenir un permis pour sortir de Gaza et se faire opérer du cœur. Le bébé aurait dû subir une intervention chirurgicale le 24 mai dernier, explique Ynet. Mais entre-temps, l'autorité palestinienne qui dépose les demandes de permis de sortie pour les Gazaouis a cessé de coopérer avec Israël pour protester contre la possible annexion d'une partie de la Cisjordanie. La demande de permis n'a donc pas été traitée à temps, explique l'agence palestinienne Wafa, et Omar Yari est mort, victime du bras de fer politique entre les Israéliens qui imposent un blocus à Gaza depuis plus de 13 ans et l'autorité palestinienne. Ces derniers jours, alertent les ONG, des centaines de personnes attendent toujours un permis pour sortir, se faire soigner.
Merci beaucoup Clotilde Mravko, nous étions en Israël, en Russie et en Inde. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
Europe 1. Un nouveau journal à 7h, la météo avec Laurent Cabrol à suivre. Europe 1, il est 6h58, Mathieu Béliard.
Mercredi 24 juin, bon réveil à tous avec la rédaction d'Europe 1. Ensemble, vous le savez, on écoute le monde changer, le monde d'après qui s'organise, le monde de la culture. Tiens, toute cette semaine, vous l'avez entendu, après le cinéma lundi, le théâtre aujourd'hui. Entretien exclusif ce matin à 8h30 avec le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé primé hier soir. L'immense Nils Arestrup sera sur Europe 1 tout à l'heure. Son prix bien sûr dans une cérémonie atypique, hein, enregistrée en plusieurs fois, mais aussi sa réflexion sur le monde d'après. Nils Arestrup à 8h30. Culture toujours avec Jean-Philippe Ballas dans Périscope tout à l'heure. Une nouvelle bande dessinée de la saga Kaamelott. En attendant le film, dont la sortie a été retardée par le Covid, Jean-Philippe Ballas a rencontré Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott. Interview sur Europe 1 ce matin. Puis à 7h30 dans le journal, vous découvrirez les nommés du premier prix littéraire remis par Europe 1 et la GMF, aujourd'hui. Ils sont 5, soyez bien à l'écoute d'ailleurs. Le lauréat sera notre invité demain matin. Dans les réflexions sur le monde d'après, l'écologie tient une place prépondérante. Notez bien Pascal Canfin, mon invité à 7h40. Eurodéputé, président de la commission environnement du Parlement européen. Et puis le risque de seconde vague, on en parle avec le professeur Éric Combe, invité de Sonia Mabrouk à 8h15 tout à l'heure. Il est 6h59, très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Ouais, c'est une météo qui ne doit pas vous surprendre, chers amis auditeurs d'Europe 1, puisque nous y sommes habitués, je vous en parle souvent. Nous sommes dans la mouvance de 3 jours de chaleur, 2 jours d'orage, puis 2 jours de pause et de nouveau de la chaleur. Ce sera le cas cette semaine, ce sera le cas probablement la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons plus chaud qu'hier et moins chaud que demain. Le pic sera atteint demain jeudi avec 35-36 à Paris et à Lyon, qui seront certainement les villes les plus chaudes. Mais les orages arriveront demain par le littoral atlantique et le massif pyrénéen. Vendredi, les températures vont baisser sensiblement, 3, 4 à 5 degrés de moins. Pourquoi ? Eh bien parce que la zone orageuse poursuivra sa traversée de la France, atteignant le nord, la Normandie, la région parisienne et le sud-ouest, donc pour vendredi. Samedi, les orages partiront vers l'est, les Alpes, l'Auvergne et le sud-ouest, donc ils auront traversé tout le pays et ils auront permis à notre météo de retrouver un souffle bien agréable, de sorte que ça vraiment, dimanche, on aura des températures de saison, mais ça ne va pas durer, la chaleur reviendra.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Écoutez le monde changer.